RCF.
Et l'information nous est présentée par Laurette Duranel. Bonjour Laurette.
Bonjour Bérangère, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, l'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie.
Le parti Fratelli d'Italia est bien parti pour remporter les élections législatives ce dimanche. Si la coalition de droite obtient la majorité des sièges au Parlement, c'est Giorgia Meloni qui pourrait devenir première ministre.
Une campagne contre l'insuffisance cardiaque s'ouvre demain.
1,5 million de Français seraient affectés par cette maladie, un nombre de personnes concernées qui serait sous-estimé d'après la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis rendez-vous en fin de journal pour parler de deux grands champions du sport, Julian Alaphilippe et Roger Federer. Le premier remet son titre de champion du monde de cyclisme en jeu ce week-end. Le second a quant à lui fait ses adieux au court de tennis.
Et vous venez de l'évoquer dans les titres, 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives.
Ils doivent élire les 200 sénateurs et 400 députés composant le Parlement à l'occasion de ce scrutin anticipé après la démission en juillet de Mario Draghi, un vote dont le résultat pourrait être historique, Grégoire Gindre.
Oui, Laurette, et les élections prennent une tournure pour le moins inattendue. La coalition droite-extrême droite est en passe de remporter le scrutin. Et en tête de file, Giorgia Meloni, la présidente de Fratelli d'Italia, qui incarne un mouvement à l'ADN post-fasciste.
Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
Cette voix, c'est donc celle de Giorgia Meloni dans un extrait qui date de 1996. À l'époque, c'est bien la gauche italienne qui était au pouvoir, une gauche qui subit un lent déclin depuis quelques années, selon la spécialiste de l'Italie, Ludmila Akone.
Le discours de ces hommes politiques qui sont de gauche ne semble pas répondre aux attentes des Italiens. Il y a toute une série de listes qui se présentent. L'Union populaire, qui est quelque chose qui ressemble un petit peu à la NUPS. Et puis vous avez toute une série de listes contestataires, souverainistes, un peu italexites, etc.
Et dimanche, cela pourrait bien également être l'abstention qui s'impose comme un acteur majeur du scrutin.
Là, elle va jouer un rôle très important. Je pense que les Italiens, peut-être, ne s'attendent plus à grand-chose. Il faut quand même ne pas oublier que la visibilité des partis politiques est un peu compliqué en ce moment avec le gouvernement Draghi où on a demandé à tout le monde de gouverner ensemble malgré les grandes différences qui existaient.
Des grandes différences, c'est aussi ce que veut imposer la grande favorite du scrutin, Giorgia Meloni. Réponse dans les urnes dès demain.
En cas de victoire, la clivante Giorgia Meloni pourrait, à 45 ans, devenir la première femme à diriger le Parlement italien. À l'international toujours, des milliers d'Ukrainiens sont eux aussi appelés aux urnes jusqu'à mardi. Les habitants des régions occupées totalement ou en partie par la Russie doivent s'exprimer sur l'annexion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à réagir face à ce qu'il qualifie de pseudo-référendum. Joe Biden a promis une réponse rapide et sévère. Elle pourrait prendre la forme de nouvelles sanctions économiques. Et alors que certains Russes poursuivent leur exode pour ne pas être enrôlés dans la guerre, les catholiques célèbrent ce dimanche la journée mondiale du migrant et du réfugié. À cette occasion, des migrants sont invités à témoigner dans leur paroisse. En Savoie, de nombreuses associations chrétiennes œuvrent en faveur des arrivants comme le Secours catholique ou encore JRS. Dans l'agglomération chambérienne, ces dernières travaillent en lien avec l'association de cohésion familiale protestante qui propose des hébergements. Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre s'est rendue à la maison Coquelicot à Laravoir.
Bipacha, est-ce qu'il y a des choses particulières ?
Les tickets de bus.
Je suis donc Bernadette Détroya, je fais partie de l'association ACFP 73. Je suis un petit peu responsable de la maison Coquelicot. La maison comporte 3 étages. Donc au rez-de-chaussée, nous avons une famille qui est là depuis le printemps, un couple et 2 enfants. Ensuite, au 1er étage, nous avons 3 chambres. Et donc, ce sont des personnes individuelles qui sont là. Et au 1er étage, nous avons une famille, une maman et son fils. L'étage du haut et l'étage du bas, ce sont des personnes qui payent un loyer. L'étage du milieu, ce sont des personnes qui sont hébergées.
Ça se passe bien ici à l'étage, oui, il n'y a pas de soucis.
Pas de soucis, tout va bien.
La vie normale, elle s'installe en fait aussi ici. C'est ça qui est important dans cette maison ?
Oui, pour moi personnellement, ce qui est important, c'est que les personnes ne vivent pas individuellement dans une chambre, dans un appartement, mais qu'il y ait vraiment une entente cordiale entre toutes les différentes personnes pour que la maison vive bien. Si les gens se reconnaissent, même en étant de cultures différentes ou d'origines différentes, ils ont plein de choses à partager et c'est ça qui fait la richesse.
Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, c'est le message du pape François pour cette journée mondiale du migrant et du réfugié qui a lieu ce dimanche. Quand et comment réformer les retraites ? Certains veulent aller vite en passant par des amendements dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023 dès cet automne. La méthode ne fait pas l'unanimité, même au sein de la majorité, Étienne Pépin.
Le risque serait de devoir passer en force avec le 49-3, mais la tactique ne plaît pas à tout le monde dans la majorité. Du côté d'Horizon, si certains ont pu exprimer des doutes, Édouard Philippe a été très clair la semaine dernière devant Elisabeth Borne. Nous serons derrière vous, que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là. Au Modem, François Bayrou s'est dit opposé au passage en force. Jean-Paul Mattei, le président du groupe parlementaire, lui, a annoncé que ses députés voteraient certainement contre les fameux amendements. Et dans le clan macroniste lui-même, jeudi matin, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a dit qu'elle n'avait jamais été favorable aux amendements qui portent en eux-mêmes une réforme d'importance parce qu'ils n'ont pas été expertisés par le Conseil d'État, n'ont pas été travaillés par les parlementaires en amont. Quant à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il estime que ce n'est pas une histoire de méthode. Pour lui, les oppositions et les syndicats ne changeront pas d'avis sur la réforme des retraites, quel que soit le calendrier choisi finalement pour la faire adopter.
Elisabeth Borne a reçu la plupart des groupes parlementaires cette semaine. La décision devait être prise avant le Conseil des ministres lundi.
À 6h30, à 7h, oh là là, moi je suis décalée d'une heure à 7h36 sur RCF. On s'intéresse à la question de la durée de l'internat des étudiants en médecine et qui sera également à l'ordre du jour lundi.
D'après le journal du dimanche, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur envisagent de rallonger d'un an les études pour devenir médecin généraliste. Si ce projet de loi est accepté, les internes devront exercer dans des déserts médicaux pendant cette année supplémentaire. L'assurance maladie lance à partir de demain une campagne de sensibilisation sur l'insuffisance cardiaque. En France, la déficience respiratoire concernerait 1,5 million de Français. Et pourtant, ce chiffre pourrait être largement sous-estimé dans l'Hexagone en cause des maladies diagnostiquées trop tardivement. Christophe Leclerc est cardiologue et président de la Société française de cardiologie. Il rappelle les premiers symptômes d'une insuffisance respiratoire.
Essoufflement, prise de poids, œdème des membres inférieurs et fatigue. Ces quatre signes, surtout lorsqu'ils sont associés, peuvent être très évocateurs d'une insuffisance cardiaque. L'intérêt, c'est qu'avec ces quatre simples symptômes, on puisse voir plus rapidement les patients, mieux prendre en charge leur insuffisance cardiaque, faire un bilan plus rapidement et surtout instaurer un traitement qui s'avère efficace. Le problème, c'est que l'insuffisance cardiaque est souvent mal connue et mal estimée. On considère que c'est une pathologie qui n'est pas très grave, contrairement au cancer, alors qu'il y a 70 000 patients qui meurent d'insuffisance cardiaque en France par an. Un mort toutes les 7 minutes. On a aujourd'hui des traitements très efficaces pour améliorer la survie des patients, mais encore faut-il les diagnostiquer et c'est tout l'intérêt de cette campagne.
Face à cette pathologie encore trop peu connue du grand public et notamment des seniors, l'assurance maladie lance donc cette campagne nationale de sensibilisation à partir de ce dimanche.
Et pour avoir un cœur en bonne santé, rien de tel que le sport. Certains pourraient d'ailleurs prendre exemple sur Gillian Alaphilippe.
Le double champion du monde de cyclisme remet son titre en jeu ce week-end. Il sera aligné sur la course en ligne demain en Australie. Un immense défi attend le coureur Berrichon qui n'arrive pas dans les meilleures conditions après une année difficile, Guillaume Martin de Guéret.
Julien Alaphilippe est au sol, le champion du monde.
This is a massive crash.
Chute de Julien Alaphilippe. La saison pourrie continue pour Juju.
Deux côtes cassées, fracture de l'omoplate, pneumothorax, luxation de l'épaule, bronchite et même Covid. Rien n'aura été épargné à Julien Alaphilippe en 2022. Le double champion du monde a plus goûté au bitume cette année qu'au bouquet du vainqueur. La dernière en date, c'était il y a moins d'un mois sur les routes de la Vuelta. Pas de quoi aborder dans les meilleures conditions un championnat du monde, mais le sélectionneur des Bleus, Thomas Vauclair est un malin, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Émeric Laporte, Valentin Madouas, Benoît Cosnefroy, Pavel Sivakov ou encore Romain Bardet pourraient également tirer leur épingle du jeu. Je ne suis pas le leader unique et ça me convient très bien à confier le Berrichon en conférence de presse. Malgré tout, le profil semble taillé pour lui. Départ de la course dimanche à 2h15 du matin, heure française.
À noter que la France accueillera les mondiaux de cyclisme en Savoie en 2027. L'annonce a été faite jeudi par l'Union cycliste internationale.
Et on termine ce journal Lorette avec la fin du règne d'un autre grand champion.
Le tennisman suisse Roger Federer a tiré sa révérence dans la nuit pendant la Laver Cup à Londres. Le champion a été ovationné par le public malgré sa défaite en double dans laquelle il faisait équipe avec son plus grand rival et ami Rafael Nadal. Le joueur de 41 ans, vainqueur de 20 grands chelems, n'a pas pu retenir ses larmes. Un grand moment d'émotion pour les amateurs de tennis. Voilà Bérangère, c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 8h pour un nouveau Flash Info.
Avec le même plaisir, à tout à l'heure, Laurette.